Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Bonsoir, bonjour, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de succès. J'ai décidé de vous proposer de temps à autre des épisodes bonus dans une série intitulée « Graines de succès ». Le titre parle de lui-même, je veux pouvoir mettre en avant des jeunes ou des moins jeunes dont le parcours est encore naissant ou le projet ne demande qu'à éclore. Voici donc le premier épisode de « Graines de succès » où vous pourrez entendre Charlotte Scapin qui s'est lancée dans une carrière de coach il y a quelques années et qui a une approche assez novatrice du coaching individuel et en entreprise. Ensemble, on parle de comment elle en est arrivée à lancer Carbone Theory, son entreprise et son programme Get Your Shit Together, qu'on pourrait traduire par rassemble tes trucs et sors-toi les doigts. Quelle est l'histoire qui l'a amenée à devenir coach? Comment elle souhaite dépoussiérer l'image un peu cucu, comme elle le dit, du développement personnel et du coaching en France? Et enfin, comment tu fais pour être légitime en tant que coach alors que tu n'as encore que, entre guillemets, 28 ans? Cette semaine, j'ai besoin de vous pour deux choses. La première, c'est de vous abonner à ma newsletter. Je vous envoie tous les 15 jours un nouvel email avec des réflexions, des lectures et bien sûr mes nouveaux épisodes de podcast. La deuxième chose, c'est que si vous avez 2 minutes, un iPhone ou un iPad ou un Mac ou quoi que ce soit d'autre, vous pouvez mettre une bonne note et un chouette commentaire sur Apple Podcast à Histoire de succès. Ça l'aidera vraiment à monter dans le classement et à gagner en visibilité. Je vous mets tous les liens dans les notes de cet épisode. De mon côté, je vous donne rendez-vous jeudi prochain dès 6h du matin dans votre appli de podcast pour un nouvel épisode d'Histoire de succès et je vous souhaite une bonne écoute en compagnie de Charlotte. Pourquoi tu parles anglais tout le temps ?
J'ai fait une année... aux États-Unis en 2007 et du coup je suis jamais vraiment rentrée.
Et j'ai
pas mal de je suis jamais redescendue et on en parlera, mais j'ai pas mal de gens dans ma tête.
Ah.
Et il y a une
est-ce que t'as Beyoncé dans ta tête alors?
Il y a un peu Beyoncé, il y a surtout je pense une américaine un peu beauf qui se prend pour Beyoncé mais qui est pas encore là. Une américaine de Caroline du Sud, un peu redneck et un peu qui twerk un peu en même temps aussi. Et donc elle ressort pas mal
Okay.
Par la parole.
Donc, alors désolé, parce que peut-être que Charlotte va basculer en anglais.
Non, je viens de venir.
J'ai vu sur Insta, tu commences à partir en anglais, tout fait. Qu'est-ce qui se passe?
Ah oui. Ouais, mais il n'y a pas que ça, il y a un peu Pénélope. Pas Cruz pour le coup, mais pas Cruz, on va l'appeler en espagnol.
Ah, tu parles espagnol?
Oui, je parle espagnol.
Je t'ai déjà vu aussi dans des stories partir en espagnol.
Oui, je parle en espagnol, portugais et anglais. Et j'ai pas mal de choses du coup qui sortent dans ces langues selon ce que j'ai envie de dire. Où il n'y a pas forcément
selon l'énergie aussi, c'est ça?
Selon l'énergie. Mmh. Et voilà, donc je me perds un peu. Mais là, j'essaie vraiment de. C'est un objectif en ce moment de me reconcentrer, de bien reparler français correctement, de bien retrouver du vocabulaire pour parler en français, retrouver les bons mots, etc. Mais après, comme je lis pas mal en langue étrangère aussi, en fait, je nourris du vocabulaire pas français et je me perds un peu.
C'est triste, hein.
Mais ça va. Je vais en faire un point de singularité à développer, tu sais. It's me.
J'ai une amie qui me racontait que elle a eu des enfants aux États-Unis et donc elle parle français avec ses enfants, mais ses enfants ils parlent très bien anglais. Et en fait, elle disait c'est ouf parce que de ce fait-là, ils parlent bien ni l'une langue ni l'autre quoi. Ils sont vraiment bof dans les deux langues en fait. C'est un vrai. Alors c'est à la fois un beau cadeau cet aspect d'être bilingue dès le plus jeune âge.
Mais
quoi.
Un peu un problème aussi.
Ouais.
Bah ouais, parce que moi, on a un peu des soucis de. Enfin, pas des soucis de compréhension, mais avec mon père et ma mère notamment, qui nous disent qu'on parle en chinois avec ma sœur, parce qu'elle est partie aussi, donc.
Vous parlez ensemble, hein,
okay. Ouais, on parle ensemble et on a un gros délire de. Moi, je suis Chloé et elle, c'est Kim, et donc on va imiter Kim et Chloé, toutes les deux.
Kardashian,
à table.
Donc, c'est ça.
Kardashian, okay. Oui. Ah bah, comme ça, en parlant comme ça. Et donc, ça énerve beaucoup, mes parents. Mais ça nous amuse beaucoup.
Bon, donc on est avec Charlotte Scapin. Salut Charlotte.
Salut.
On a commencé par digresser pendant 3 minutes avant de commencer
l'interview. Ça annonce la couleur.
Ça annonce très fort la couleur. Charlotte, la première fois que je t'ai rencontrée, t'étais encore étudiante.
Oui.
T'étais venue chez Mademoiselle.
Oui.
T'étais une pote du fils de mon associé qui est mort il y a quelques mois d'ailleurs. Et en fait, tu venais pour... Je me souviens plus exactement pourquoi, mais en fait... T'es venu de là avec ta pote, si je me souviens bien.
Ouais, on avait une association qui s'appelait Empowerment House. C'était mon tout premier projet. Et on était venu de présenter un projet d'événement qui s'appelait Bust Cliché. Et en fait, on cherchait à développer cet événement où on mettait en avant des personnalités, pas forcément singulières en fait, mais des personnalités qui avaient un peu éclaté les différents stéréotypes qui étaient, qui pouvaient être une faiblesse pour eux et qu'on avait fait vraiment une force et qui étaient devenus trop stylés et qui font même à la fin de ce stéréotype un truc trop stylé qui donne envie de limite d'avoir ce stéréotype quoi. Et donc c'était vraiment, on voulait mettre en avant ces personnalités hyper énergiques qui changent un peu les croyances et les perceptions sur certains traits de caractère, sur des personnalités, etc. Et donc on était venu te voir pour dire est-ce que c'est bien, parce qu'on doutait beaucoup de nous à l'époque et on avait pas mal besoin de, tu vois, cette figure d'autorité ou d'expertise en tout cas qui pouvait nous dire allez-y, c'est très très bien. Donc voilà, on t'a trouvé.
Et c'était fort parce que je m'étais vraiment dit, alors je sais pas où elles vont ces deux-là, mais elles vont faire des trucs, quoi, parce que vraiment, j'avais senti en vous une énergie folle. On va reparler un peu de où vous en êtes maintenant, mais avant ça, j'aimerais bien que tu me racontes un petit peu à quoi ressemblait Charlotte quand... Alors, juste avant de faire ça, parce que vous l'avez sans doute entendu dans l'intro et tout, mais en fait, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui, Charlotte ?
Qu'est-ce que je fais aujourd'hui ? J'ai une boîte qui s'appelle Carbon Theory, enfin une boîte que je conçois comme un espèce de grand laboratoire, mais donc je suis coach en développement personnel. C'est un peu très magique et très mystique pour beaucoup de personnes, mais en fait c'est un peu l'équivalent de quand t'as mal quelque part physiquement, que t'es bloqué, que tu vas chez le chiro ou chez l'ostéo, il va te remettre en place. Bah en fait nous on fait des déconstructions mentales et on fait de la reconstruction pour justement t'aider au lieu d'avoir plein de choses qui te limitent et qui te bloquent, on fait de la reconstruction pour t'aider à atteindre tes objectifs, même si t'as pas d'objectif, à atteindre ce que tu as envie de faire dans la vie, ou à te comporter de la manière dont tu as envie de te comporter, à gagner en liberté, en aisance, etc. Comme pour du mouvement où tu vois, tu vas gagner en aisance, en mobilité, bah là c'est pareil. Donc je fais ça. Et en fait, ce qui me posait problème, c'est que le développement personnel, comme il est conçu en France, je trouve que souvent c'est très, tu vois, c'est beaucoup de symbolique autour du mec en haut de la montagne qui va lever le point très haut avec des fontaines, des bouddhas, etc., etc. Et je trouvais qu'il y avait peu de choses qui correspondaient en fait à un peu notre génération qui a pas envie de se retrouver dans un truc de oh il faut que je me calme et j'ai un problème et je dois lever le poing sur la montagne et surélever quelque chose, mais qui veut en fait l'introduire comme quelque chose d'assez quotidien, comme du sport, comme quelque chose de dynamique, comme quelque chose de qui va de l'avant. Et donc j'ai beaucoup travaillé sur la forme en fait. Et donc sur le fond aussi, et là actuellement j'ai une formation qui s'appelle Get Your Shit Together, GIST, pour les intimes.
Et ton caca et remets
prends tout ton caca et remets le bien quoi, faisant une petite montagne bien où tu pourras te mettre dessus et lever ton poing. Et donc ça je fais ça, et en fait j'ai des promos de 25-30 personnes qui font une partie en ligne et une partie en accompagnement individuel. Et c'est trop chouette parce que là j'avais très très peur de la lancer parce que tu vois, j'ai que 4 ans d'expérience dans le coaching, donc c'est pas non plus. Et en fait, j'ai des résultats de fou. Donc,
t'as quel âge ?
J'ai 28 ans.
C'est jeune, hein ? On te dit ça souvent, en fait.
Ouais, beaucoup, mais en entreprise surtout. Et en fait, c'est un peu un point bloquant, mais qui est autant une valeur ajoutée. Parce que, tu vois, là, j'accompagnais des managers 40-50 ans. Qui m'ont vu arriver. En plus, tu vois, j'ai pas une dégaine très corporate non plus.
T'es par exemple, t'as des Converse, t'as des All Star, t'as un jean qui est en plus coupé en bas. Enfin, vraiment, quelle dégaine.
J'ai un peu de cambouis dans les ongles, de vélo, ça, j'ai pas normalement. J'ai la petite touche spéciale.
Un jean taille haute qui est pas. Enfin.
Non, là, je suis venue tranquille.
Vous êtes pas très présentable, Madame Scapin.
Ouais, non. Mais j'ai pas une. Je vais plus m'habiller en entreprise quand même, mais j'ai pas un truc très corporate. Et en fait, ce qui est chouette, c'est qu'au début, ils se disent « Ouh là là, ça va être quoi ce truc un peu bullshit, un peu développement personnel, fionfion, tu vois, où ils vont pas apprendre grand-chose ?» Et en fait, j'ai une approche qui est très très pragmatique, et en fait, tu vois, c'est ça qui m'a permis de construire ma confiance en moi aussi, c'est que j'y vais les premières fois en me disant « Putain, ça va être quoi ce truc ?» Et à la fin, en fait, ils me disent « Mais c'est trop bien, on a appris plein de trucs, je voyais pas du tout ça sous cet angle. » Et je pense qu'en ayant des outils et des personnalités différentes à amener le problème, forcément tu trouves des solutions différentes que tu n'avais pas vues avant et qui peuvent aider quoi.
Donc tu fais aussi des coachings en entreprise, en équipe, c'est ça alors ?
Oui, okay. Je fais du coaching individuel en entreprise, je fais du coaching en équipe en entreprise, Mais après, ce qui est vraiment le plus kiffant, c'est quand c'est des gens qui viennent directement à toi pour travailler parce que eux sont très motivés et que en entreprise, ça c'est un truc que je trouve aberrant. Mais tu vois, par exemple, le développement personnel, c'est pas compris dans les crédits de formation. Mmh. Et en fait, pour moi, c'est une connerie monumentale parce que quand t'as des problèmes, la plupart du temps, ça reste des problèmes humains, ça reste des problèmes de relationnel, ça reste. Et les gens font style, non, c'est pas à l'entreprise de s'occuper de ça. Alors que bah finalement, si tu prends pas ça en compte, tu vas pas gérer les problèmes plus macro au final si tu décides pas de t'attaquer à ça. Et en entreprise, c'est difficile parce que ça fait un peu aveu de faiblesse, tu vois, d'aller parler de toi. C'est toujours délicat parce que t'as une posture en entreprise qui permet pas de, bah, de discuter de tes problèmes, de tes croyances, de tes masques, blablabla. Bla, bla, bla. Et donc bah, c'est difficile de faire ça en entreprise.
Et t'as aussi une autre formation où tu t'incites des meufs à twerker.
Oui.
C'est très raccourci, hein, pardon.
Oui, non, mais si.
Et pour le coup, c'est plus physique, c'est plus dans le corps, c'est ça?
Moi, je trouve que c'est plus dans la tête, mais on va utiliser le mouvement et la danse. Mais c'est. Ça s'appelle les R&B Therapy. C'est le truc qui, ça, cartonne vraiment. Je suis super contente. Et en fait, c'est des cours de confiance en soi par la danse. Et tu vois, c'est physique parce que oui, tu vas bouger. Mais en fait, moi, ce sur quoi je vais travailler. Tu vois, c'est des trucs qui sont tout petits, mais qui font toute la différence. C'est majoritairement des femmes qui viennent. Elles arrivent dans le cours. Et tu vois, t'as des miroirs partout. Et par exemple, elles vont même pas. On fait beaucoup d'exercices de marche au début. Donc oui, t'as le swag J-Lo, Beyoncé et tout, parce qu'on a du gros son. Je veux les pousser vraiment à se lâcher. Mais tu vois, au début, elles se regardent même pas dans le miroir. Les postures, elles sont toujours. Tu vois, le dos le courbé, les épaules rentrées. La tête comme ça, tu vois, elles vont un peu se regarder. Il y a un exercice aussi qui est fou, c'est que dans les exercices de marche, elles repartent en fait vers le reste du groupe, donc une vingtaine de personnes, et elles doivent les regarder droit dans les yeux en fait en marchant. Et ça, c'est incroyable, quoi. Tu vois, au début, impossible de le faire, elles rigolent. Comme si la seule manière d'accepter de faire quelque chose où tu t'affirmes, c'est en le faisant sous l'ironie ou dans le rire ou dans la blague. Et donc moi, c'est ce que je vais essayer de travailler, c'est de dire ok, là, t'es pas dans la blague, là, tu te tiens droite, arrête de jamais te prendre au sérieux, etc. Donc on fait tout un travail sur le non-jugement, tout un travail sur l'affirmation de soi, tout un travail sur le lâcher-prise. Tu vois, à un moment, elles sont dans le noir, c'est la partie un peu hyper difficile du cours, mais elles sont dans le noir et elles doivent danser sur un son, pour le coup, ultra R&B, qui incite vraiment à prolonger les mouvements et tout. Et tu vois, j'ai des femmes qui viennent et qui s'autorisent même pas, parce que c'est ça, en fait, l'histoire, à faire un pas en avant pour prendre de l'espace et un peu bouger quand elles sont toutes seules dans le noir. Et il y a toute une thématique vraiment d'autorisation, d'appropriation de l'espace, d'appropriation de ton corps, de ton mouvement, tu vois, même lever le bras, elles ont honte, elles rougissent alors qu'elles sont dans le noir et que personne ne les regarde. Et donc,
J'avais vu que tu avais mis une story où il y avait une de tes, alors je sais pas comment t'appelles ça, cliente, ou qui avait peur de d'enlever son pull en fait au départ, et puis en fait elle finit
elle crevait de chaud.
Elle finit en crop top à danser.
Ouais, c'est ça aussi, tu vois, c'est que comme on crée un espace d'ultra liberté d'expression de soi, de non-jugement, etc. À la fin, les gens sont à l'aise parce que, tu vois, moi, j'ai une de mes potes, Anne, qui bossait avec moi au début dans l'association, qui, elle, parce qu'à terme, c'est ce que j'aimerais développer, tu vois, que les gens osent venir dans une tenue qu'ils osent jamais porter. Donc, Anne, qui s'en fout, elle arrive en résille, en body string, avec des cuissardes bleues paillettes, etc. Donc, aussi, tu vois, il y a ça qui est hyper important, c'est que quand t'as quelqu'un qui s'autorise, après, ça crée un.
Ça fait sauter le verrou. Quoi.
Ça fait sauter le verrou. T'en as d'autres qui s'autorisent et qui vont mettre leur t-shirt un peu sous leur brassière parce qu'elles ont chaud, qui vont enlever leur pull, qui se regardent pas en se disant juste en voyant un bourrelet, mais qui se regardent en disant putain, là, je danse, je suis trop stylée, je me regarde dans le miroir. Parce qu'au final, c'est vraiment qu'une question de posture, de regard et d'interprétation de toi, en fait.
J'ai la sensation, parce que je te suis maintenant depuis un petit moment, que ça a été un vrai travail que tu as toi-même accompli.
Ah bah,
ce que
tu es
en train de te dire, bah ouais, comme si c'était ça coulait de source, mais je pense pas que ça coule de source. Et c'est pour moi ce qui rend d'autant plus intéressant ta démarche, c'est que tu es en train de retransmettre un truc que toi-même, j'ai l'impression que tu as assimilé, que tu es peut-être encore en train d'assimiler d'ailleurs, parce que c'est un travail de tous les instants. J'aimerais savoir à quoi ressemblait Charlotte quand elle avait 7-8 ans, la petite Charlotte.
Je ressemblais pas mal à là où j'en suis maintenant, donc ultra extravertie, première de la classe pour faire et les cours et la kermesse et les danses et les gâteaux et les tout ce que tu veux. J'étais hyper j'étais hyper extravertie, j'avais zéro filtre, je pense. J'étais hyper bonne élève. J'étais dans un truc vraiment de je fais dans tous les sens du terme. Je faisais de la gym, je faisais du dessin, je faisais de la GRS, de l'aérobic, on faisait les compétitions. J'étais ouais, pile électrique.
Tu dis, ça a changé entre-temps alors?
Ouais, c'est plutôt ça, je pense, du coup, qui est intéressant.
Oui, je me doute.
Parce que tu vois, t'as des gens qui vont rester dans une construction, qui ont quelque chose et qui vont le garder tout le temps. Moi, j'ai gardé ce truc de fond. Et en fait, en grandissant, au collège, pas mal, j'étais pareil, tout le temps en train de... S'il y avait un truc pour danser ou un truc super bon élève... J'ai toujours été hyper bon élève. Et en fait, au fur et à mesure, pas mal au lycée, je crois... Ouais, début lycée... Ouais, je crois vers la seconde. En fait, j'étais hyper fusionnelle avec des gens un peu individuels. Et au lycée, c'est là où on s'est un peu séparés. Et moi, j'ai eu un contexte familial qui a été un peu compliqué. Et en fait, j'ai commencé en seconde à avoir ce climat familial compliqué. Mon père était au Togo parce qu'il a été en Afrique depuis mes 14 ans. Donc j'étais chez ma mère à Saint-Malo. Et bon, les choses n'étaient pas forcément hyper évidentes. Et moi, j'ai eu une réaction à ça, au lieu, tu vois, de communiquer et de essayer de décanter le problème. En fait, j'ai eu une réaction vraiment de fuite, je me mets à fond dans le travail, de surperformance, en fait, pour, je pense, moi, me donner confiance et me construire un truc à côté. Je suis partie aux États-Unis après pendant un an.
T'avais des conflits avec ta mère, c'est ça? C'est ce que tu...
Ma mère a été pas mal malade. Et donc depuis longtemps elle a un parcours hyper hyper difficile aussi. Elle a perdu ses parents très jeune, elle a été orpheline très jeune, enfin il y a eu plein de choses qui font que tout ça s'explique. Mais tu vois, quand t'es enfant, adolescent et que tu le vis et que t'as pas le recul maintenant de te dire, ah tu vois, à chaque fois qu'il y a un truc de ah oui je comprends pourquoi tu fais ça parce que machin que j'arrive très bien à faire maintenant, mais même adulte c'est pas compliqué parce que j'ai une formation de coach, parce que j'ai fait les trucs. Mais quand t'es ado c'est compliqué. Et donc ça c'était difficile, tu vois, de voir un parent qui va pas bien. T'essaies d'apporter toi comme tu peux les choses que tu peux apporter, mais la dépression de toute façon c'est quelque chose de difficile, qui est médical et qui est chimique, et tu vois, il y a des choses après tu vas culpabiliser parce que tu te dis que t'arrives pas forcément à trouver les solutions pour ton parent malade, etc. Donc ça a été compliqué.
Oui, tu voulais aider. Enfin, tu...
Ah ouais, normal. Moi j'étais en mode sauveuse. J'étais là, ok, on va faire ça. J'avais déjà à la limite des programmes qui étaient mis en place. Et tu vois, j'essayais vraiment de faire tout ce que je pouvais pour être irréprochable. Donc encore ce truc de première de la classe, de je fais pas trop de bruit, de je fais pas de vagues. Donc tu vois, j'ai jamais fait de crise d'ado. J'ai toujours été en mode l'enfant, un peu ma sœur aussi. Tu vois, on a toujours fait en sorte d'être irréprochable pour pas être un problème supplémentaire. Mais dans ta construction d'ado, c'est vrai que c'est compliqué parce que tu vas aller moins expérimenter plein de choses, tu vas être super prudent. Nous, on a grandi dans une prudence assez extrême dans nos agissements, etc.
Vous aviez peur ?
On avait peur. Pareil, tu vois, on a un papa policier, donc enfin commissaire, donc pareil, il y a un truc de prudence qui est assez ancré. Tu vois, on a des souvenirs où il nous faisait regarder quand on était petites des vidéos de Fred et Jamy de la sécurité routière, des trucs trop hardcore. Donc on a grandi un peu dans ce climat, tu vois, de rigueur policière, de prudence, etc. Et puis lui qui a un parcours aussi particulier qui fait que on a toujours été dans la performance un peu. Et puis tu vois une maman malade à côté avec qui ça a été compliqué. Donc ma sœur est partie aux États-Unis après.
Toi t'étais toute seule donc.
Moi je me suis retrouvée toute seule avec mon petit frère mais qui était petit un an. Et après moi je me suis dit allez je vais faire pareil, on va faire un peu une pause, je vais aller découvrir autre chose. Donc je suis partie aux États-Unis j'avais 16 ans quand je suis arrivée là-bas dans une famille d'accueil. Et là, c'est pareil, tu vois, tu redécouvres la famille de manière totalement différente parce que t'as que ta propre expérience personnelle pour comme moyen de comparaison. Et là, je me retrouve dans une famille américaine avec une fille méthodiste. Donc, je me retrouvais à l'église, tu vois, tous les dimanches. Il y a eu des trucs trop cool, des trucs un peu plus bizarres. Mais ma famille, vraiment, qui m'a accueillie comme... il y avait des règles, tu vois, il y avait les parents qui faisaient les sorties, machin, qui faisaient à manger, qui faisaient tous les trucs, tu vois, était vraiment la famille ricorée, tu vois. Mm-hmm. Mais après, c'était génial et je suis encore hyper proche d'eux. Mais avec du recul maintenant, je me dis que je me serais jamais construit comme je suis maintenant et que j'aurais jamais fait tout ce que je fais maintenant. Je pense si j'avais été dans un environnement aussi, aseptisé, entre guillemets, ouais, sans problème et sans faille, quoi. Donc, à la fin, je suis quand même contente d'en avoir tiré quelque chose et je me dis que c'est ce qui crée aussi des personnalités et qui forgent le caractère, quoi.
Donc, en fait, quand tu rentres des États-Unis, comment ça se passe pour toi, ta vie
Ah là, c'est la débandade totale. Là, là, ça a été vraiment les 2 ans les plus compliqués pour moi. Donc là, gros trouble du comportement alimentaire parce que j'avais grossi aussi pas mal aux États-Unis. La situation s'arrange pas du tout chez moi. Donc je me retrouve une situation compliquée. Je me réfugie totalement dans les études. Enfin, dans le lycée, quoi. Je sors plus, je fais que de travailler. Puis t'as ce truc aussi où pendant l'année où je suis partie, c'était quand tout le monde était en première. T'as plein de trucs qui se passent, de soirées, de gens qui sortent avec trucs. Donc tu loupes quand même plein de trucs. Et quand t'arrives un an après, moi j'étais là, putain, j'ai vécu ça aux États-Unis. J'étais dans ce truc. J'ai mes parents. J'ai ça. Et tu vois, je me suis retrouvée dans. Oh, mais j'ai l'impression d'être déconnectée de la terre, quoi. Je me souviens, on allait dans un bar qui s'appelait l'Alambic le midi pour boire des cafés et manger nos sandwichs là. Et je me souviens, j'écoutais tout le monde. Et j'étais là. Il y avait, tu sais, les filles. Mais qui sont aujourd'hui des super potes à moi, mais tu sais, tu te mets une barrière, j'étais là, oh, mais elles sont trop populaires, elles sont trop stylées. Et là, tu vois, c'est là où j'ai commencé à me sentir, je suis trop bizarre. En fait, j'ai commencé à me sentir bizarre et c'est pas comme maintenant où tu vois sur Instagram être bizarre, c'est stylé et tout le monde te limite t'incite à être bizarre parce que ça cultive ta singularité et que c'est cool. Là, j'étais là, oh là là, je suis vraiment trop chelou, je vais jamais me faire d'amis, quoi. Et donc, j'avais plein de copains quand même, tu vois, j'étais pas seule au monde, mais pas, tu vois, de connexion un peu profonde, j'avais un peu perdu ça. Et donc, c'est revenu au fur et à mesure, mais là, j'ai eu des vrais problèmes de comportement alimentaire, de maux de tête, bah, tout ce qui va avec, tu vois. Après, tu perds du poids, t'as des carences alimentaires, donc qui font que tu fonctionnes bizarrement. Et je faisais ça principalement, je travaillais. Après, en terminale, je voulais absolument partir en Argentine et revoyager, tu vois. Donc, je travaillais à fond pour mettre des sous de côté, donc j'étais chez Quick. Je bossais chez Quick, je me suis pris un appart. Après, mon père m'a aidé pour, tu vois, sortir de chez moi et me faire un peu d'air. Mais pareil, moi, j'avais un peu honte de le dire à mes copains. Donc, j'avais que 2 copines qui savaient que je vivais plus chez moi, que j'étais partie de chez moi et tout.
Pourquoi t'avais honte? Alors que pour moi, c'est plutôt un truc plutôt...
Maintenant,
stylé.
Oui, avec du recul. Mais tu vois, quand t'es au lycée, que tout le monde a ses familles, c'est ce que t'interprètes aussi. Parce qu'avec du recul, j'ai parlé avec tout le monde a des problèmes. Bah, une famille toute parfaite n'existe pas, tu vois.
C'est la merde partout, sachez-le.
C'est la merde partout, exactement. Mais je pense que tu te fais tellement des fantasmes. Vu que je discutais pas, moi, en plus, bah, tu te fais des fantasmes. Tu te dis, ah, oh, mais machin, il a sa maison avec son petit papa, sa petite maman. Alors que non, pas du tout. Tout le monde est en train de se gueuler dessus. Enfin, je me suis rendu compte après que ma situation a été hyper, hyper normale, quoi. Il y a plein de gens qui ont des parents qui vont pas bien, qui essaient de s'en sortir, qui s'engueulent, qui machin, que tout ce que tu veux. Et donc, moi, j'ai quand même décidé, parce que quand j'ai senti que vraiment la situation avait un impact sur ma santé physique aussi important, bah, tu vois, là, mon père m'a dit, écoute, on va essayer de te prendre un appartement, déjà de sortir de l'environnement qui est compliqué. Parce que pareil, on m'avait mis sous antidépresseurs et tout, mais moi, j'étais là, c'est pas tellement une histoire de dépression, c'est une histoire plus d'environnement qui fait que j'ai besoin d'air, en fait. Donc, on a fait ça, et puis après, bah, écoute, ça a été mieux au fur et à mesure que tu t'éloignes un peu que tu prends du recul par rapport à ton environnement familial qui peut être compliqué, bah, après, j'ai été en prépa, là, c'est pareil, ça a été un peu compliqué, mais c'est un peu le temps, tu vois, de se reconstruire et puis de commencer le travail dont tu parlais tout à l'heure, que j'ai commencé vers mes 20 ans. Et là, en 8 ans de travail, là, ça fait vraiment un an que je me sens, tu vois, hyper solide dans... Mais ça prend 8 ans, quoi.
Comment t'as fait pour passer de « je vais me mettre à faire ce travail-là » alors que t'as 20 ans? Parce qu'à 20 ans, on est...
À 20 ans, j'ai pas fait ça. À 20 ans, j'ai commencé le... Ah oui, pas mon travail de coach, mais le travail plutôt...
Sur toi ?
Ah oui, bah moi, j'étais pas insouciante du tout, pour le coup. Là, j'étais pas insouciante, insouciance zéro, quoi. ça n'existait plus. Non, bah écoute, c'était quand tu fais des, quand t'es tout le temps en un peu en crise, que tu sens que, bah moi j'avais quand même ce truc de trouble du comportement alimentaire qui devait trouver une solution, parce que à la fin tu maigris, tu sais que tu t'empiffres, tu, moi c'était vraiment des épisodes d'hyperphagie avec après je vais courir pendant 2 heures, mais tu vois parfois dans mon appartement là qu'on m'avait pris à 23h, si j'avais fait une crise à 23h, j'allais me taper une course jusqu'à Rochebonne. Donc les gens qui sont pas à Saint-Malo, ils vont pas connaître, mais tu tapes toute la digue aller-retour, 23h minuit, la folle dingue quoi, tu vois, enfin, et je faisais que des trucs comme ça, et à la fin c'est problématique. Donc en fait, quand j'ai commencé à en parler, bah j'ai commencé à en parler à ma mère, j'ai commencé à en parler à mon père, qui ont commencé à me donner des pistes qui étaient trop cool. Après j'ai été voir un premier psychologue. Là, je me suis dit, mon Dieu, va des rétros. C'était un truc de constellation familiale que je sais que beaucoup de gens font, mais moi, ça m'a traumatisé. J'ai jamais refait ça après.
C'est quoi ce... C'est quoi,
c'est une thérapie, en fait, où tu... là, je sais pas, elle avait pris des Playmobil, je pense, pour...
J'en ai entendu parler.
Comment on dit
Personnifier
les gens de ta famille. Et donc, on fait les trucs. Et puis, tu vois, je me souviens, en plus, j'étais petite. Enfin, j'étais petite. J'étais pas petite, j'avais 18, 19, 20 ans. Mais c'était la première fois que j'y allais. Et tu vois, tu t'assois. Maintenant, c'est hyper comique, mais tu t'assois dans le truc et la personne ne dit rien. Comme le film là de Clapiche qui vient de sortir avec François Civil qui arrive et le psy dit rien du tout. Alors que c'est ta première... c'est plutôt, bah oui, c'est à vous de me... Moi, elle m'a même pas dit, c'est à vous de me dire ce qu'il y a. Elle s'est juste assise et j'étais là, putain, c'est quoi ce truc?
Ah ouais.
Et ouais, ça a fini vraiment en pleurant. Et tu vois, sans trop de pistes derrière de, ok, on va faire ça après, machin. Donc je me suis dit, non, j'y retourne pas. Après, j'ai un peu fait un truc, tu vois, j'ai commencé à lire des trucs, mais je trouvais ça toujours super cucu. Et moi, comme j'étais dans le truc de performance, j'avais pas envie d'être, tu vois, de faire cet aveu de faiblesse de, ah, vous avez ça qui ne va pas dans, enfin, c'était un truc un peu lent qui me plaisait pas. Et je sais plus après exactement comment ça s'est fait. J'ai pas mal voyagé, j'ai pas mal rencontré de gens. Ça m'a permis de pas mal m'ouvrir. J'ai rencontré Anne, notamment, bah, dont je te parlais. Qui elle m'a aussi, tu vois, même t'as même pas forcément parfois de voir des psys selon ton cas, tu vois, tu vas faire une belle rencontre, elle qui a mes zéro complexes corporels, qui s'assume de tout, qui pour la première fois, tu vois, m'a parlé de sexualité, qui enfin plein de trucs comme ça et qui ont fait que, tu vois, j'ai eu vraiment un autre regard même, donc ça a été plein d'espèces de petites graines machin jusqu'à ce que vraiment après mon école de commerce, bah là je fasse une vraie thérapie, je fasse ma formation de coach, je lise, mais là je me suis fait boulimie mentale de livres de développement personnel, je pouvais plus m'arrêter, j'ai tout testé, tout actionné, je me suis tout appliqué à fond.
Qu'est-ce qui t'a donné envie de, je te coupe un peu, mais ouais. Qu'est-ce qui t'a donné envie en fait en sortant de l'école de commerce de devenir coach, parce que il y a, j'imagine déjà la formation te forme pas justement à devenir coach.
On non, a pas du tout.
Plutôt en école de commerce, tu vas finir derrière un bureau, ouais. À être consultant, à travailler dans le marketing, etc. Et de te dire, ok, je vais aller faire ce métier-là qui, a priori, est plutôt un truc où, en tout cas dans l'image, je pense qu'on a, c'est un quinca ou une quinca qui a bossé un peu, qui a roulé sa bosse en entreprise et qui a accumulé suffisamment d'expérience pour se dire, ok, maintenant désormais je suis coach.
Ouais.
Et je peux un peu jouer ce rôle de, comme tu disais tout à l'heure, d'autorité, quoi.
Ouais, ouais. Non, bah moi en fait ça s'est fait un peu par hasard, entre guillemets. Je me faisais un peu chier en école de commerce à un moment. Et en fait, tout le monde avait... Donc, on était dans des assos. C'était là où j'étais avec Hugo, dans l'asso de musique Nymphonie. Et tu vois, pareil, j'avais toujours ce truc de... Putain, j'ai pas l'impression d'être hyper à ma place. Il y avait une autre asso qui s'appelait La Commune. Donc là, on faisait de la comédie musicale. Donc là, j'étais à ma place 5000%. Mais tu vois, il y avait un truc à côté où je me disais, il faut un peu faire plus. Et moi, je me souviens que ce qui m'a beaucoup aidé, c'est pour ça que je travaille beaucoup sur les rôles modèles, c'est en fait la projection. Et en fait, je me disais, il y a plein de rôles modèles. Quand ils te parlent, bon, en fait, limite, ils te parlent tellement de leurs échecs avant d'y arriver. Ils parlent tellement des moments compliqués que ça te donne envie d'avoir un moment compliqué parce que ça va être un milestone à atteindre avant d'y aller. Donc limite, tu vas aller chercher tous les trucs compliqués jusqu'à ce que ça t'arrive. Et en fait, je me suis dit, mais... Il faudrait tellement, ça m'aidait beaucoup, il faudrait tellement démocratiser ce truc de les gens qu'on trouve stylés, mais en fait qu'ils aillent nous raconter un peu leur vraie histoire pour qu'on se rende compte que ça arrive pas en claquant des doigts. Et on a commencé donc à créer cet asso qui s'appelle Empowerment House et où on faisait des événements avec des personnalités inspirantes, donc soit vraiment des cours de des cours vraiment pratiques, tu vois, de sport, de boxe, de danse où là tu mets en pratique, des rencontres, des déjeuners, des talks, etc. Et puis ça, en fait, à un moment, j'ai fini par faire des concours d'éloquence et concours d'entrepreneuriat à Gennevilliers avec Sarah, je crois que tu avais rencontré aussi. Et là, on a des entrepreneurs qui venaient parce qu'ils jouaient les rôles de mentors pour les petits et qui m'ont dit, mais c'est génial, faut vraiment que t'ailles développer ça en entreprise. Donc là, je me suis dit, bon, bah, ok, vu que j'avais fait une année d'alternance, j'avais le chômage, je me suis dit, bah, go, je vais me lancer en entrepreneuriat. Donc j'ai monté Empowerment Lab avec Nico. Et là, c'était juste une structure pour se dire, ok, on fait des ateliers maintenant avec des personnalités inspirantes, mais qu'on crée en entreprise. Donc, on l'a un peu structuré. On faisait ça pour les entreprises et les particuliers. Et en fait, on s'est séparés avec Nico au bout d'un an parce que ça fonctionnait pas entre nous dans le travail. Et moi, je me retrouvais plus non plus dans Empowerment Lab parce que c'était quand même assez neutre. Et moi, j'ai un univers qui est quand même très marqué que j'avais besoin d'aller cultiver après. Et donc après ça, moi, je commençais à avoir pas mal de demandes à la fin d'Empowerment Lab en coaching individuel, mais je voulais pas le faire parce que, bah, tu vois, faut une vraie méthode, c'est un vrai travail. Tu peux pas juste dire, alors là, je te conseille d'aller faire ça ou je sais pas quoi, parce que ça marche pas comme ça. Et en fait, plus j'avais de demandes, plus je me suis dit, bah, je vais aller développer quelque chose toute seule et je vais aller en fait me former. Donc j'ai fait cette formation de coach avec un gros travail à côté dont je te parlais. Et à la fin, bah, j'ai commencé, donc timidement, j'ai eu mes premiers clients, je les facturais 50€ l'heure et demie, je faisais des tests, j'ai fait des méthodes tests aussi, où là c'était tout gratuit, j'avais un groupe de femmes chez qui j'allais tester mes méthodes, etc. Et en fait, au fur et à mesure d'aller tester, donc t'as un retour sur toi, ce que tu fais, tu changes, tu retestes, tu rechanges jusqu'à ce que ta méthode, elle soit un peu consolidée. Et en fait, j'ai eu des résultats tellement cool que, bah, après, je me suis vraiment lancée et là, ça fonctionne bien, quoi.
Je voudrais revenir sur... tu sais, moi, j'aime bien les trucs qui marchent pas.
Ouais.
Je trouve que c'est toujours là-dessus,
bah oui.
C'est hyper intéressant. Tu as parlé très, très vite du fait d'arrêter de travailler avec ton
ouais.
associé. Donc, vous avez monté la boîte ensemble, c'est ça? Vous êtes associés, etc.
En fait, il y avait Empowerment House au début, donc ouais. l'asso. Là, Nico était pas encore là. Et il revenait d'un voyage... Enfin, il allait partir en Amérique du Sud. Et tu vois, moi, j'étais un peu... pas pareil, pas confiance en moi, donc je me disais il me faut quelqu'un, parce que je me souviens quand j'avais lancé le site de Empowerment House, donc j'étais avec Sao-san aussi qui bossait dessus, on était deux à l'école, mais tu vois on a lancé le site, il y avait Caro et Léo aussi, on était six, et tu vois en école de commerce tout le monde était là, mais c'est quoi ton truc? Moi j'étais même pas au courant, tu vois, que les ateliers de développement personnel ça existait, parce qu'on était à Grenoble et que voilà j'avais pas toute la visu sur ce qui se passe à Paris, et tout le monde nous prenait pour... un peu pas du tout des débiles, mais tu vois, un peu des meufs perchées, quoi. Personne comprenait que l'inspiration, ça peut se transmettre, tu vois, que c'est même un produit, quoi. Donc, on était hyper à côté de la plaque pour plein de gens.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Et donc, en fait, au moment de me lancer en entreprise, moi, je me suis dit, non, mais déjà, j'ai du mal à assumer mon truc en école de commerce. Comment je vais faire quand je vais devoir me présenter en entreprise? Puis, j'en ai parlé un peu autour de moi. Et puis, Nico m'a dit, ah bah oui, ça me plaît trop. Lui, pareil, qui est hyper axé sur tout ce qui est humain, etc. On s'est retrouvés sur pas mal de choses, qui a un profil beaucoup plus technique que le mien parce qu'il bossait chez Microsoft. Et moi, plus le profil un peu public, créativité, représentation, etc. Donc, ça matchait bien. Et en fait, on a lancé ça. Donc, on a lancé les premiers ateliers qui se sont remplis au fur et à mesure, etc. On a commencé à signer des beaux contrats avec des grosses entreprises. Et en fait, bah moi, j'ai eu ce truc qui est un peu autant mon problème, je pense, que ma force. Mais ce truc, tu vois, à un moment, au bout de plusieurs mois, de pas me sentir alignée et de pas sentir que je prenais en fait la bonne voie pour moi. Et comme tu vois, je faisais tout ce travail d'alignement, etc. Bah, je me suis dit, moi, c'est là la configuration actuellement et me convient pas en fait. Et j'avais ce truc, tu vois, d'avoir envie de pousser mon univers à 4000%, de faire moins de compromis, de faire moins d'être un peu moins corporate et un peu moins lisse en fait. Mais ce qui est hyper dur à assumer, parce que ça, tu l'assumes quand t'es à un niveau de confiance qui est quand même plus abouti.
Et comment t'as fait alors? Parce que déjà, ça veut dire qu'il faut que tu fasses ce chemin-là, toi, dans ta tête, j'imagine, avant même d'aller voir ton
associé.
Ouais,
ouais. Bah, on en a parlé, tu vois, on avait beaucoup aussi des grosses discussions sur la vision de l'entreprise, la méthodo, etc.
D'une manière générale, si vous montez votre boîte et que vous êtes entre associés, c'est très important de le faire très régulièrement, de où est-ce qu'on va ensemble. Quoi.
Ouais, ouais, puis on était mentorés aussi par Jérémy, qui était vraiment top, qui nous a beaucoup aidés, qui est un entrepreneur assez reconnu. Et en fait, au bout d'un moment, moi, je me suis juste rendu compte que j'avais envie d'aller dans un truc... tu vois, j'avais pas envie d'aller dans quelque chose de féminin, mais en fait, j'ai un univers qui fait que... qui est hyper pop culture, qui est hyper 90s et qui en fait va attirer les meufs plus que les hommes. Et j'avais envie d'aller dans cette brèche à fond et Nico moins. Et donc à la fin, on a fini par se séparer et par dissoudre la société. Et donc moi, à me relancer toute seule. Mais tu vois là, un des trucs qui est... Ça par exemple, c'est pas... Enfin, ça a hyper bien marché. Ça a hyper bien marché. Ça a très bien marché... Dès le début, en fait, Empowerment Lab, il a décroché des super beaux contrats en entreprise, etc. Et en fait, moi, j'ai tué le truc dans l'œuf. C'était pas une histoire de succès ou de pas de succès, pour une histoire d'alignement. Donc, c'est vrai que souvent, ça peut passer un peu pour un caprice, ça peut passer un peu pour tout ce que tu veux, quoi. Mais en fait, moi, je suis convaincue, en tout cas, je le sais pas pour l'instant, mais que tu fais rien sur un problème initial d'alignement et sur une différence de vision, tu vois. Dans ton entreprise. Donc, je pense qu'il valait mieux le couper au début, avant que vraiment, j'en sais rien, qu'il y ait des fonds, qu'il y ait des salariés, qu'il y ait, je sais pas, tout ce que tu veux. Et de repartir, tu repars pas à zéro. En fait, t'as fait tous tes enseignements jusqu'au un an après. Tu fais, ok, là, j'ai ça marche, ça s'apprend pas, tu repars. Puis après, moi, j'ai vraiment l'impression que c'est. Tu refais jamais zéro, quoi. Tu reprends tes trucs et puis tu repars avec tout ce que t'as, tous tes enseignements. Tu repars après. C'est qu'une question d'itération, de réitération et de tout ça, quoi.
D'accord.
Je sais pas si toi, tu le vis de la même manière, mais...
si, parce que... Enfin, je pense que quoi qu'il arrive, c'est ce fameux truc de... Il n'y a pas d'échec, il y a juste des apprentissages, quoi. Tu vois, c'est juste... Tu prends des coups dans la gueule et en fait, tu finis par apprendre des trucs qui t'amènent... sur un autre chemin. Quoi.
Mais t'es obligé de prendre le coup dans la gueule pour t'en rendre compte, quoi, souvent.
Souvent. L'être humain, d'une manière générale, je pense que l'être humain ne change que dans la crise
et dans la catastrophe.
Et dans la claque dans la gueule, quoi, justement. On est assez d'accord là-dessus. Et donc, en fait, tu décides, pour rentrer un peu plus dans ton projet actuel, ton histoire de Get Your Shit Together, etc., comment ça se concrétise exactement? C'est des formations en 25, c'est ça que tu disais aujourd'hui?
Ouais, c'est des formations en ligne. C'est des formations en ligne sur 8 semaines. Donc là, il y a 25 personnes. Donc, tu as un groupe Facebook où les 25 se retrouvent. Et en fait, tu as donc 8 modules. Dans chaque module, tu as un e-book de cours théorique, une vidéo théorique, un workshop, donc là pour vraiment faire tous tes exercices, et après un week training. Et là, ça va vraiment être ton programme de la semaine pour mettre en pratique tout ce que tu as appris pendant le cours, le workshop, etc. Et donc ça, tu as 8 modules qui sont un peu... qui vont crescendo. En fait, tu vois, tu commences par les émotions, ton échelle de valeur, plein de choses, et à la fin, tu passes vraiment. En fait, c'est une récolte de données sur les 5 premières semaines, beaucoup sur toi, tes problématiques, tes blocages, etc. Et les 3 dernières semaines, c'est beaucoup de transformation, en fait.
Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ça ?
Je me dis que c'est vraiment le truc dont moi j'aurais eu besoin quand j'avais pas mon shit together. Et en fait, tu vois, c'est vraiment. C'est vraiment 4-5 ans de recherche personnelle condensée là-dedans. Alors après, c'est vraiment ce que je veux dire aux gens. Tu vois, là, c'est 8 semaines parce que ça va te donner tous les outils dont tu as besoin sur 8 semaines. Ça va te permettre de te les approprier, de les connaître, de un peu, tu vois, les regarder, les toucher du doigt, etc. Mais tu changes rien. Enfin, tu changes rien, c'est horrible, je vais me mettre une balle dans le pied, mais tu changes rien en 8 semaines. Tu vas avoir des fondamentaux.
Tu plantes des graines.
Mais tu vois, il y a beaucoup de gens aussi qui voient le développement personnel avec toutes les injonctions de ça y est, tu vas te lever à 5h du matin, ta vie va totalement changer, tu vas faire ceci, t'auras plus jamais de problème. Et puis, vois le développement personnel comme justement, tu seras plus triste, tu vas t'affranchir de tout ce qui te bloque dans la vie, t'auras plus jamais de doutes, t'auras plus jamais d'incertitudes. C'est absolument pas ça, en fait. C'est juste apprendre à gérer l'incertitude, apprendre à gérer le doute. Tu vois, quand t'es triste ou que t'es pas bien, bah aussi connaître le fonctionnement physiologique de tes émotions pour au lieu de te mettre le doigt dans l'engrenage juste parce que t'as fait tomber ta fourchette par terre ou t'as oublié ton tupperware, le truc, tu vas te monter la tête et tu vas finir par te dire que tu vas jamais trouver de mec, enfin tu vois, comme les trucs peuvent aller, ou que tu vas jamais réussir à monter ton entreprise, ou que tu vas finir avec tes 70 chats tout seul à 80 ans, enfin bref, on a une capacité quand même parfois à se monter la tête sur certains trucs et à laisser les choses grandir et nous bloquer. Donc là, t'apprends en fait vraiment physiologiquement tes habitudes comportementales, tes habitudes émotionnelles, tes habitudes physiologiques, etc. Et tu fais un peu le tri ensuite sur ce qui te bloque, ce que tu veux garder, mais de manière très personnelle. Tu vois, moi, j'ai des croyances qui sont limitantes chez certains coachés et qui sont en fait des croyances aidantes chez d'autres. Donc moi, mon but, c'est absolument pas de te dire tu dois penser comme ça, comme ça, comme ça, tu dois arriver à faire ça, à faire ça, à faire ça. Le but, c'est vraiment de dire ok, t'as tout ça, maintenant fais vraiment un diagnostic ultra perso sur ce qui t'aide, ce qui te bloque, et on va transformer ce qui te bloque pour faire ce que t'as à faire.
C'est décevant, hein, tu donnes pas une recette pour le bonheur, c'est
non.
Triste.
Non, non, non. Mais c'est ça qui est dur aussi, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui recule un peu face à ce travail, parce que c'est un travail qui est tellement, 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 tellement personnel que bah, en fait, c'est difficile et ça prend du temps. Et puis, c'est surtout que les gens qui n'ont pas confiance en eux, c'est aussi beaucoup de gens en fait, qui vont avoir de la confiance, qui vont aller combler ce manque de confiance dans le regard des autres et dans l'autorisation. Et là, le travail, c'est de dire, ok, toi, qu'est-ce que tu t'autorises à faire tout seul, quelle décision tu vas prendre tout seul, qu'est-ce que, donc bah évidemment quand t'as eu un mécanisme comportemental qui va toujours aller chercher ailleurs et qu'on te dit maintenant c'est à toi de décider, t'as envie de, j'en ai plein là, tu vois les retours que j'ai, c'est cette formation elle fait trop peur, cette formation elle me terrorise, elles sont dedans actuellement, elles sont au module 6 là, donc il reste 2 semaines, et elles me disent ça fait peur tous les jours, ça fait peur, ça fait peur, ça fait peur, ça fait peur. Mais parce que le cerveau est fait aussi comme ça pour t'envoyer des signaux de peur quand tu vas à l'encontre de circuits neuronaux ou d'habitudes émotionnelles ou d'habitudes comportementales qu'il a mis en place parce que bah, lui, ça lui permet de garantir ta sécurité, de garantir tous ces schémas qu'il a mis en place. Donc quand tu vas à l'encontre de ça, lui, pour les protéger, il va t'envoyer de la peur, de l'anxiété, de tout ce que tu veux. Donc bah, ça va te dissuader en fait, de faire ce que tu as à faire. Donc il faut passer en fait, toute cette période de peur pour aller de l'autre côté. Et c'est ça qui est trop dur.
C'est dur, je pense, c'est dur de se rendre compte qu'en fait, comment dire, tu peux avoir du pouvoir sur ton cerveau.
Ah bah ouais.
Je pense qu'on nous éduque pas du tout là-dedans.
Mais non, mais c'est ça qui est pareil, truc le plus aberrant, qu'on t'apprend. Moi je me souviens avec ma sœur, on faisait en SVT la reproduction des oursins, quoi. T'apprends comment les oursins se reproduisent et t'apprends pas
les
comment
gamètes
mais oui.
les sporanges.
Et oui, et les pistils et je sais pas voilà. Quoi. Et jamais on t'apprend comment ton cerveau fonctionne. Mais encore une fois, parce que le développement personnel, je pense, a été tellement servi comme une espèce de recette miracle, comme un truc à mettre en place, comme des injonctions, comme tu devrais être comme ça. Mais c'est pas ça, en fait. C'est juste t'apprendre comment tu fonctionnes et à partir de la connaissance de comment tu fonctionnes, en tirer les apprentissages et toi, faire ce que t'as envie de faire par rapport à ça. Mais pour moi, dans, tu vois, la prise de conscience qu'il y a autour de la santé physique, du sport, de la méditation, de la marche, de l'étirement des muscles, etc. Mais là, en fait, c'est exactement la même chose. Et je pense que dans 20-30 ans, ce sera aussi normal d'aller chez un coach ou en tout cas chez un thérapeute ou je sais pas quoi pour te remettre, en fait, comme tu vas chez un ostéo la tête, que tu le fais maintenant pour ton corps. Mais vu que c'est pas tangible et qu'on le voit pas, tu vois, tout le monde dit non, mais maintenant, ça c'est quand même hyper démocratisé, les psys. Même moi qui suis dans ce milieu, j'ai jamais entendu quelqu'un dire ah bah ok, par contre, il me reste plus que 10 minutes avant qu'on ait fini notre brunch parce que je vais chez le psy là, une heure. Tu vois, personne dit ça quoi. Alors que tu vas très bien dire ouais, par contre, j'ai mon yoga dans 10 minutes donc je dois te laisser. Donc il y a encore énormément de progrès à faire là-dessus. Mais à l'école, effectivement, ça devrait être dans les fondamentaux de. L'école maternelle, primaire, collège, surtout adolescence, lycée, c'est dingue quoi. Donc après GIST, je m'attaque à l'éducation nationale.
C'est vrai ?
Ouais.
T'as envie ?
Ouais, à fond. Mm.
T'as un plan ?
J'ai pas encore de plan parce que là je suis encore sur mon plan de renforcement de ma formation, de prise de feedback des gens qui la font, de consolidation de ma méthode, etc.
Tu veux devenir ministre ?
Ah, pas du tout. Oh là là.
Mais.
Pas du tout.
Comment tu vas faire alors ?
J'ai envie de vraiment proposer des programmes, de réussir à proposer des choses qui fonctionnent, aller les tester. Mais j'ai pas envie d'être décisionnaire.
Tu veux, parce qu'en fait, tu t'adresserais donc aux profs, c'est ça?
Bah, enfin, soit aux profs, soit aux enfants. Mais tu vois, par exemple, là, c'est assez difficile. Il y a pas trop, tu vois, comme il y a en entreprise dans l'école publique, des ateliers extérieurs. Donc c'est vrai que ça te met dans ton programme de l'année, alors que tu pourrais très bien avoir des ateliers, sur le genre, tu pourrais avoir des ateliers sur les habitudes émotionnelles, tu pourrais avoir des ateliers sur tout ce genre de trucs un peu à côté, ou dans les activités un peu périscolaires. Tu vois, là, par exemple, t'as, dans les options de bac ou tout ce que tu veux, t'as de la danse, du théâtre ou je sais pas quoi. Il y a plein de solutions, en fait, pour amener ça. Ou alors des espèces de pilotes tests, comme Céline Alvarez le fait dans les écoles maternelles. Je pense qu'il y a plein de choses à faire sans être ministre, tu vois, de rajouter du terrain à l'école, qui est là ce sanctuaire, et je comprends quand même, parce que qui est le sanctuaire auquel il faut pas toucher, parce que c'est l'apprentissage, parce que c'est les enfants. Mais en plus, moi qui ai très ce truc quand même académique que j'aime beaucoup, enfin c'est personnel, mais tu vois, je trouve ça chouette, même tout ce qu'on... Les méthodes de concentration, de discipline, etc. Moi, je trouvais ça cool, mais je sais que je devais être la seule à trouver ça cool à l'école. Donc, mais je pense qu'il y a plein de choses à aller intégrer à l'école d'extérieur.
Je sais qu'il y a des jeunes profs des écoles qui, par exemple, de leur propre volonté, viennent faire de la méditation laïque, par exemple, à leur môme.
À La Rochelle, là, il y a eu un gros... une école qui a vraiment mis ça en place, qui a des résultats de fou, mais faut avoir envie aussi, parce que après, moi, j'ai juste mon cousin qui est dans l'éducation nationale, mais ça a l'air aussi d'être ingérable avec les programmes, déjà tout ce qu'il y a à faire, tout ce qu'il y a à caler. Donc moi, je dis pas que c'est les profs ou pas les profs, mais je pense que il y a des choses à mettre en place. Et si une école comme La Rochelle le montre, ou Céline Alvarez à Gennevilliers le montre aussi, doit quand même y avoir des choses possibles. Mais c'est vrai que c'est pas très poreux, en fait, entre le monde de l'éducation nationale et puis le monde du coaching, etc. Il n'y a pas forcément, je pense, il y a des solutions, mais après, c'est juste le relationnel, d'aller trouver quelqu'un qui peut nous mettre en contact avec quelqu'un et tout. En fait, c'est très opérationnel, très, très bête, mais je pense que c'est ça aussi qui fait que ça bloque au bout d'un moment, quoi.
J'avais vu une story de toi sur Insta où tu disais, bon, je vous mettrai tous les liens à les suivre sur les réseaux, c'est souvent marrant. Où tu disais un truc du style, t'étais en train de danser devant ton téléphone, quoi. Et tu disais, si on m'avait dit ça, si on m'avait dit que j'en serais là aujourd'hui il y a 5 ans, j'aurais jamais cru, ou je sais pas. Comment t'apprécies ton parcours, en fait, avec le temps, justement, depuis ces cinq dernières années, quoi?
Bah, moi, je suis trop fière de moi, quoi. Mais j'ai développé une relation d'amour-propre de fou, quoi. Je me kiffe trop. Je sais que c'est pas encore habituel d'entendre ça.
Ouais. J'allais dire, on cogne pas sur la gueule, en fait, quand tu viens dire ça à l'extérieur.
Bah non, parce que je le dis pas trop, c'est plus entre moi et moi, tu vois. Et puis, mais après, c'est je me kiffe trop dans ce que j'ai accompli, tu vois, ça va pas être des accomplissements chiffrés, parce que en chiffres, j'ai rien d'accomplissement qui permette de dire waouh, trop stylé, etc. Mais moi, d'où je viens maintenant et là où j'en suis, là où je suis arrivée personnellement. Mais je suis trop fière de moi, quoi. Je suis trop contente de ce que je suis devenue. Je suis trop contente des blocages que j'ai réussi à dépasser. Et en fait, il y a un truc qu'on apprend dans la formation, c'est tout ce qui est autour de la version fantasmée de soi. Et donc, il y a un module sur les masques dans la formation Get Your Shit Together, sur laquelle on travaille. Et en fait, il y a un gros deuil à faire entre ce que tu crois que tu es. Mais moi, je pensais que j'étais la reine du monde. Je pensais que ça y est, j'allais lancer mon entreprise, que j'étais trop stylée. Donc, tu vois, je comprenais pas que les contrats tardent à venir, que j'étais pas suivie sur Insta, que j'en sais rien, tous les trucs un peu justement chiffrés dont je te parlais. Et donc, j'avais une version de, parce que je sais que je suis une brute de travail, parce que je sais que j'accomplis beaucoup de choses, parce que je sais que tout ce que tu veux. Et donc, j'avais ce truc de version fantasmée de je devrais. Et en fait, tout ce travail de revenir à la version réelle de toi, mode meuf, détends-toi, personne te connaît, tu commences juste là-dessus, oui, t'as beaucoup d'idées, oui, t'es créative, mais en fait, personne t'attend, t'es pas Michelle Obama, calme-toi, enfin, tout va bien, tu vois. Et en fait, pour moi, vraiment, l'amour propre, parce qu'on parle beaucoup de self-love et de tout ce que tu veux, c'est de devenir hyper à l'aise avec la version réelle de toi-même. Ce qui veut pas dire t'en satisfaire ou t'en contenter, parce que tu vois, moi, en faisant ce deuil et en voyant le truc de version réelle, j'étais là, putain, ça c'est pas stylé, quoi. Ça, c'est pas glamour. Ça, j'aimerais travailler dessus. Tu vois, moi, je crois pas que le self-love, oui, c'est une question d'acceptation totale, mais pas de contentement ou de résignation. Il y a des choses sur lesquelles je veux réussir à travailler, etc. Mais tu vois, en sachant, en partant de cette version réelle et en voyant maintenant où j'en suis arrivée, mais tu vois, ça paraît débile maintenant tellement que, puis c'était il y a 4 mois, mais faire les R&B thérapies, j'en vomissais au début, j'étais là, mais tout le monde va trouver ça débile. J'avais un gros problème avec la superficialité, pareil que j'ai accepté, tu vois, tu peux être intelligent et profond et construit, et kiffer Beyoncé, kiffer Ariana Grande, kiffer les séries débiles, kiffer Big Bang Theory, tous les trucs débiles que, enfin, considéré comme débile, mais moi j'en tire beaucoup d'enseignements que moi j'adore, tu vois. Et là-dessus, bah, rien que le fait de réussir, ok, à assumer mes idées, assumer mes convictions de plus en plus, là je suis encore en train de travailler dessus, mais j'avais beaucoup de mal, tu vois, à avoir des convictions.
Qu'est-ce qui fait que t'as monté comment t'as fait dans ta... C'est quoi le cheminement dans ta tête pour te dire, je vais monter une formation qui va me donner envie de dégobiller avant de la faire?
Bah, tout ça, alors toi, je sais pas si t'as vécu ça, mais pour moi, en tout cas, tout mon processus entrepreneurial, j'ai toujours la gerbe avant de lancer des nouveaux trucs. J'ai toujours peur. Mais après, maintenant, je le sais. Parce que je sais encore que bah, c'est mon cerveau. Je sais que j'ai une habitude émotionnelle qui est mise en place. Je sais que j'ai un besoin de validation en amont. Je sais que j'ai tout ça. En fait, je sais pas que moi, mais je sais que mon cerveau a mis ça en place. Donc de toute façon, je sais maintenant que l'envie de gerber, la peur, les maux de ventre, etc., avant de lancer quelque chose, je vais l'avoir parce que mon cerveau fonctionne de cette manière. Donc, et tu vois, c'est plutôt bon signe parce que je sais aussi que quand je fais pas ça, ça veut dire que j'ai pas été au bout de ma conviction. Ça veut dire que j'ai pas été au bout de mon idée. Donc pour moi, ça c'est un signal de me dire, ok, tu te sens pas bien, t'es dans l'inconfort le plus total, mais au moins t'es sur la bonne voie parce que ça veut dire que t'as été au bout des choses. Chose qui aujourd'hui me fait moins peur parce que je commence à envoyer des signaux contradictoires à mon cerveau qui montrent que quand je vais au bout des choses, au final, ça se passe bien. Au final, il y a du monde. Au final, il y a du résultat. Il y a de la valeur ajoutée pour les gens à qui je propose ça. Mais c'est vrai qu'au début, c'est difficile. Mais encore une fois, ce qui m'a énormément aidée, c'est toutes ces histoires de rôle modèle, toutes les histoires que j'ai lues sur l'échec, sur l'entrepreneuriat, même les sportifs ou tout ce que tu veux. Que de toute façon, la gerbe, la peur, le manque de confiance, le truc là qui va te faire « Ah, je me lance, je saute de la falaise, etc. », c'est un passage obligatoire si tu veux passer au step d'après. Donc moi, je m'accrochais vachement à ça. J'ai une phrase de Kanye West que, je sais pas, je voudrais que je me grave dans le cerveau ou sous la bouche ou je sais pas quoi, qui dit « My ego is my imaginary friend. He was with me when I was only imagining. » Donc genre, mon ego est mon ami imaginaire et que j'avais que mon ego avec moi quand je n'avais que quand je pouvais que imaginer. Et moi, c'est exactement pareil. Je me dis, bah, là, j'imagine. Faut que je me dise que, ok, je vais y arriver, que j'ai mes convictions, tout ce qui crée mon ego à côté, et que, ok, j'ai que ça pour l'instant, mais je vais passer le step d'après pour voir où ça va, quoi.
Wow.
Bah, je pense que ça doit te faire pareil aussi. T'as dû vivre les mêmes choses.
Oui, un peu.
Tous les gens à qui je parle maintenant qui entreprennent ou qui font des choses, en tout cas, mais c'est pas de l'entrepreneuriat, tu vois, ça va être juste si t'as peur, j'en sais rien, si t'as de l'anxiété sociale et que t'as peur d'aller dehors, avant d'aller dehors et de faire ce step, de se rendre compte que en fait ça se passe bien d'aller dehors, ils vont avoir la gerbe. Après, ça dépend de où t'en es dans ta construction, mais la gerbe est un bon signe, messieurs, dames.
Ça dépend aussi comment tu gères comment tu gères ta peur, quoi. Il y a des gens qui s'étouffent.
Ouais. Bah, moi, j'ai pas encore de truc qui me fait arrêter de vivre. Mon cerveau n'a pas mis tout en shutdown, mais je me sens vraiment pas bien, quoi.
Donc, tu disais, tes projets pour après, c'est quoi exactement?
Là, c'est de encore développer, c'est pas très glamour, mais consolider pour que ma formation, pour que les résultats soient vraiment chouettes. Mais là, j'ai des résultats top, donc je suis sur la bonne voie. Ça va être de l'affinage. Et j'ai très, très, très envie, parce que je crois qu'on en avait parlé, mais j'étais au cours Florent, je fais beaucoup de danse, je fais beaucoup de théâtre, etc. J'ai très envie d'amener ça, en tout cas ce parcours ou ses enseignements ou ce que moi je connais de ça sur scène. Donc j'ai envie de
comment ça
développer une sorte de conférence, mais un peu Beyoncé-isée, on stage. Parce que ça peut faire un point d'accroche aussi. Tu vois, là, les gens, ils vont pas aller. La formation, elle coûte 486 euros si tu la fais avec moi. Donc les gens qui sont pas... c'est un budget, quoi. C'est ce que je dis tout le temps. Tu dois te prendre un mi-temps chez Quick pour t'offrir ça. Et quand t'es pas sûr, quand t'as pas été convaincu, que... Puis ça me saoule, tu vois, de convaincre que les gens par mail. J'aime bien, moi, les relations, vraiment, les rapports directs avec les gens. Donc je fais des petits déj et tout, où on peut se rencontrer. Mais je pense que si t'as la forme, parce que je suis très attachée à la forme, du rire, de l'expérience personnelle, du partage en, sur scène, de tout ce que tu veux, bah ça va permettre aussi de démocratiser le travail sur soi et le développement personnel d'une manière moins cucu que une vidéo sur YouTube. 3 jours pour prendre confiance en soi avec Richard, Robert ou je sais pas quoi, tu vois.
Richard.
J'ai pas le nom en tête, mais... Donc ouais, ça ce serait mon big, big projet, mais vraiment... conférence ultra pop culture plus avec des choristes.
Ah ouais.
Genre, ouais. Après je ferai petit et puis je grossirai à la fin, mais je veux créer un nouveau point d'accroche qui est plus où tu vois t'es pas obligé d'aller toi te mettre en danger, tu peux aller écouter, prendre l'énergie et te dire allez ok je vais commencer à travailler sur moi.
C'est un truc qui commence à rentrer un peu dans les mœurs, j'ai l'impression d'avoir cette sensation que de dépenser de l'argent pour comment dire investir dans soi.
Mm-hmm.
J'ai un peu la sensation que c'était pas forcément un truc qui était... Enfin, tu vois, par exemple, tu peux dépenser de l'argent pour aller voir un film, pour acheter un bouquin éventuellement, mais en fait, de le dépenser pour aller investir dans toi, dans qui tu es, c'est un truc un peu nouveau. Je sais pas si t'as un truc à dire sur le...
Si, mais après, je pense qu'il y avait, pas non plus de prise de conscience que tu pouvais investir en toi avant, parce que à part la thérapie, mais qui était quand même très associée à j'ai un problème de fond, de dépression ou de je sais pas quoi, tu vas pas investir en toi si, tu vois, on se disait pas avant que, et c'est pas encore être heureux tout le temps, c'est pas du tout ça le sujet, mais on se disait pas avant qu'il y avait des solutions pour lever tes blocages mentaux ou lever des blocages émotionnels. Et maintenant, il y en a. Donc, bah, forcément, les gens, ils se disent « Ok, comme je vais aller investir... » Comme avant, on allait juste chez le kiné. J'arrête avec ces trucs corporels, mais je trouve que c'est exactement la même chose. Tu vas chez le kiné quand t'as un problème, alors que là, tu vas aller peut-être chez l'ostéo en préventif pour te détendre ou tout ce que tu veux. Bah, je pense que là, la prise de conscience, elle est pareille, que les gens se rendent compte qu'il y a tout un travail de prévention qui est possible. Et puis c'est surtout que bah souvent, en fait, t'as les outils, tu l'investis une fois et après, c'est pas si compliqué, tu vois. Tout le monde en fait une affaire du développement personnel, du développement de soi, de la connaissance de soi et tout. Une fois que t'as le bon coaching, les bons outils, ça prend pas non plus... Oui, c'est un travail de tout le temps parce que tu dois mettre en pratique et il y a des automatismes à avoir. Une fois que t'as fait ça, c'est pas non plus toute la vie, je vais devoir... après, c'est tranquille, tu t'as le truc et puis c'est bon, quoi.
Est-ce qu'il y a une question que je t'ai pas posée, que t'aurais aimé que je te pose ?
Non, écoute, c'était très... J'ai beaucoup parlé, je t'ai raconté beaucoup de choses.
C'est le concept en même temps. Hein.
Ouais. Après, ça peut être, je sais pas, ce qu'on me demande le plus, ou en tout cas, ce qui est, à qui ça peut être plus adressé, tu vois, ou ce genre de choses. C'est ouais. Les questions que moi, on me pose, quoi, donc...
Et alors ?
Et alors, bah en fait, j'ai aussi beaucoup. C'est quoi la confiance en soi ? Mais en fait, c'est ça. C'est, je pense, tous les gens, en tout cas moi, comme je travaille, tous les gens qui s'auto-censurent, qui ont besoin, tu vois, de la validation des autres pour faire quelque chose, qui rougissent d'eux-mêmes dès qu'ils doivent prendre la parole ou dès qu'ils ont une idée, qu'ils doivent exposer leur idée, qui s'autorisent pas à être. Qui ont peur qu'on leur mette une droite dès qu'ils vont faire une erreur ou dès qui eux s'infligent des droites eux-mêmes, qui s'auto-flagellent tout le temps. Tu vois, il y a un truc sur le discours intérieur qui va être de dès que t'es pas bon, pas parfait, de les associer à je suis une grosse merde, je suis une grosse bouse ou tout ce genre de truc. Bah tout ça, ça sert à rien de rester avec ça quoi. Et tu vois, après, peu importe le niveau où t'en es, de budget, de pédagogie ou quoi que ce soit, mais ouvrez un livre de développement personnel, commencez par ouvrir des vidéos, même si c'est des vidéos cucu qui vous correspondent pas, etc. Juste faire le travail le premier pas de vous dire « Ok, je m'autorise déjà à conscientiser que je suis comme ça, que je pourrais être autrement au lieu de... » Sauf si c'est votre kiff et que c'est votre vibe et que ça vous inspire dans la vie, ça c'est pas le problème. Mais si vous sentez que vous avez besoin de changer là-dessus, bah, de commencer à faire le premier step pour aller voir ce qu'il y a comme contenu, comme pédagogie et aller un peu kiffer votre vie et twerker sur les tables, les fesses à l'air, quoi.
T'as dit premier step, j'étais justement en train de me dire, c'est bien Charlotte, t'as pas trop parlé en anglais.
Bon, non. Non, parce qu'on a parlé assez sérieusement. Tu vois, c'est quand on va commencer à parler de je sais pas quoi.
De quoi?
De twerk, par exemple, de la scène, du stage, de tout ça, tu vois, ça va ressortir. Non, écoute, j'étais dans une vibe très partage. En plus, on a parlé de trucs dont j'ai jamais parlé de ma vie, quoi. Donc, j'allais pas dire, oh yeah, oh oui, tu sais ma mère, dépressive, yeah. La dépression, oh my god.
Oui, c'est sûr que c'était meuf.
Oh my god, la dépression, fuck that. Donc, non, je me suis bienvenue.
Donc, ouais, je dis, vous pourrez retrouver tout. Je vais mettre plein de liens, Charlotte, pour que les gens puissent suivre ton travail.
Merci.
Merci à toi, c'était cool.
À lui. Juste.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.